on s'est souvent pas toujours rendu compte de ce qu'on était en train de construire. Eh bien aujourd'hui, moi j'en suis certain, c'est la même chose. Nous ne sommes pas dans n'importe quel moment de la vie politique nationale. Et aujourd'hui, en ce début de l'année 2013, alors que beaucoup effectivement prennent un peu partout la résignation, je vais aussi en parler, il y a une force, celle du front de gauche, qui vous dit, nous ne renonçons à rien, la résignation pour nous, nous n'en voulons pas. Nous n'avons pas chassé Sarkozy il y a 8 mois, pour 8 mois après renoncer à tous nos espoirs et à toutes nos luttes. Nous repartons à la bataille, nous repartons unis, nous allons à nouveau lever l'espoir dans le pays, et c'est ce soir que tout cela aura commencé. Donc soyez fiers d'être à ce rendez-vous, et tous ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'ils sont très nombreux sur Internet, nous sommes repartis en campagne, et cette campagne-là, une nouvelle fois, va changer le paysage politique de notre pays. En vérité, vous n'avez jamais arrêté. Il faut se rappeler qu'en septembre, la première alarme, c'est nous qui l'avons sonnée avec la magnifique manifestation du 30 septembre. C'était un sacré pari, quelques jours seulement après la rentrée scolaire. Et bien ce jour-là, 80 000 personnes défilaient dans les rues de Paris, venues de tout le pays, pour dire « il ne faut pas ratifier le traité européen qui n'a pas été renégocié ». Et d'une certaine manière, nous indiquions à ce moment-là les problèmes dans lesquels, malheureusement, la politique gouvernementale est en train de s'enfoncer. Nous avons donc posé ce jour-là un jalon. Et depuis, nous n'avons pas arrêté. Nous avons été sur tous les fronts. Et moi, je suis très fier, effectivement, qu'on ait ouvert ce meeting avec nos camarades de Florange, que nous sommes venus voir ici plusieurs fois dans le trimestre, et moi je me rappelle cette rencontre extrêmement émouvante avec eux, juste après que le gouvernement ait cédé à l'État en signant l'accord. Ici, quand nous sommes venus les rencontrer, il y avait effectivement beaucoup d'émotions et de tensions dans la salle, dans notre rencontre avec eux, et ils nous ont dit combien ils voulaient continuer le combat. Et nous leur avons dit que nous serions à leur côté. Et nous sommes très fiers, effectivement, d'avoir ouvert le meeting avec eux, parce que ce combat, il est emblématique, parce que la campagne que nous démarrons, c'est une campagne pour dire l'alternative à l'austérité, et j'ajoute aux politiques de compétitivité patronale et financière, l'alternative à cette austérité, elle est possible, et effectivement, elle était possible à l'automne dernier, avec les Florange. On était tout près de cela. Il était possible, en refusant la logique de Mittal, et en engageant toute la puissance publique aux côtés des sidérurgistes, qui sont un des fleurons de l'industrie nationale, il était possible d'envoyer un signe qui aurait changé beaucoup de choses. Et cette occasion a été manquée par le gouvernement, alors que nous étions si près de pouvoir le faire. Donc oui, ici, nous sommes venus dire à l'automne, l'alternative à l'austérité, c'est possible. Eh bien, nous venons le dire à nouveau ce soir, et nous allons le dire dans tout le pays, parce qu'il n'est pas possible d'accepter le chemin qui est aujourd'hui entrepris. Ce n'est pas pour ça que nous avons battu la droite il y a 8 mois, ce n'est pas pour ça que la majorité des Français ont voté, qu'ils aient d'ailleurs voté pour le Front de Gauche, ou pour d'autres votes, y compris pour François Hollande au premier tour. C'est tous ces Français voulaient le changement, attendaient autre chose que ce qui est en train de se passer, et c'est ce que nous portons aujourd'hui, parce que nous n'avons pas rangé au rayon des accessoires ce que nous portions il y a quelques mois seulement. Et je disais que nous étions dans un moment particulier, parce que c'est vrai que nous n'avons jamais cessé de le dire dans la campagne, que nous avons montré une autre voie, et que 4 millions d'électeurs l'ont dit avec nous en 2012, 4 millions d'électeurs. Et aujourd'hui, ces 4 millions sont toujours prêts à se mobiliser si nous levons l'espoir à nouveau. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est qu'en plus de ces 4 millions-là, il y en a des millions d'autres qui n'ont pas voté pour le Front de Gauche, qui se disent aujourd'hui, mais ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas en rester là, qui s'interrogent, qui se demandent comment agir, qui se demandent quel chemin prendre, pour ne pas laisser les choses continuer comme cela, qui voient bien que le changement attendu ne s'engage pas et qui ne veulent pas l'accepter, eh bien notre campagne, c'est une campagne qui s'adresse évidemment à tous ceux qui ont voté pour le Front de gauche au printemps dernier, mais c'est une campagne qui s'adresse encore et plus, j'ai envie de dire d'une certaine manière, à tous ceux qui n'ont pas voté pour le Front de gauche au printemps dernier et qui aujourd'hui peuvent entendre ce que nous disons, parce qu'ils comprennent qu'effectivement, si on ne se donne pas les moyens du changement, si on ne se donne pas les moyens de faire la guerre à la finance, comme le disait le président de la République dans sa campagne, eh bien rien ne sera possible. Et finalement, les idées que nous avons portées dans cette campagne, aujourd'hui, prennent leur valeur. Et des millions de gens, au-delà des 4 millions que nous avons rassemblés, peuvent le comprendre. Si nous savons leur tendre la main, si nous savons parler avec eux, si nous savons rassembler toutes ces forces et toutes ces énergies nouvelles. Et je crois que cette campagne, la campagne que nous engageons ce soir, c'est une campagne pour être plus fort et pour être toujours plus nombreux à dire « Tenez votre parole, faites la guerre à la finance », parce que c'est le seul moyen de sortir de la crise. Et partout où on ne le fait pas, où on s'abaisse aux politiques d'austérité, comme le disait Jean-Luc, eh bien on s'enfonce. Oui, 2013 sera la 6e année d'austérité en Grèce, de récession en Grèce, sera la 5e année de récession en Espagne et la 3e au Portugal. Alors avec ça, on aura du mal à nous convaincre en printemps la même fois, nous allons sortir de la crise. La sidérurgie, puisque nous sommes ici en terre sidérurgique, est un exemple symbolique et éclairant de cette situation. La sidérurgie est au cœur de l'industrie nationale. Qui peut prétendre que nous engageons le redressement productif du pays sans maîtriser la sidérurgie dans notre pays? Qui peut penser que nous allons construire les centaines de milliers de logements qui sont remplis d'acier? Parce que quand on construit des bâtiments, il y a de l'acier dedans. Qui peut penser que nous allons relever le défi du logement et du logement social dans notre pays si nous ne maîtrisons ni les coûts, ni les lieux de production, ni l'orientation de notre activité sidérurgique? Qui peut penser que nous allons relever le défi écologique si nous ne mettons pas de l'argent dans les nouveaux procédés industriels que Mittal, dans lesquels justement Mittal refuse d'investir, alors que paraît-il cela faisait partie de l'accord signé avec le gouvernement? Et le lendemain matin de la signature de ce soi-disant accord, Mittal a annoncé qu'il retirait sa candidature du projet Ulbosch, qui est le projet européen de sidérurgie propre avec des nouveaux procédés, avec captation de carbone. Donc il n'y aura pas, on ne relèvera pas le défi d'une industrie écologique si on n'obtient pas la maîtrise publique d'un tel secteur. Donc nous avions là l'occasion, je l'ai dit, d'envoyer un signal pour toute l'industrie nationale que nous étions prêts, la France, à engager ce redressement productif, ce redressement social, et que c'était le moyen de parvenir. Alors aujourd'hui, avec nos camarades sidérurgistes, oui, nous prenons le pays à témoin. On leur a dit aux sidérurgistes, l'accord Mittal, eh bien, on est obligé de faire ça. Et on leur a dit au même moment, comme l'a rappelé Lionel tout à l'heure, mais si jamais Mittal ne respecte pas l'accord, eh bien, nous reposerons la question de la nationalisation. Eh bien, alors, allez poser aujourd'hui la question, puisque nous savons déjà que Mittal ne tient pas ses engagements. À l'Assemblée nationale, les députés du Front de gauche ont obtenu aujourd'hui, parce qu'il y a encore quelques petits droits pour les parlementaires que nous essayons d'utiliser, ont obtenu aujourd'hui la création d'une commission d'enquête sur la sidérurgie nationale qui sera présidée par un des députés de notre groupe. Eh bien, je veux dire au pays tout entier, aux salariés de l'industrie de notre pays, aux salariés de la sidérurgie, que nous allons utiliser cette commission d'enquête pour obtenir les réponses auxquelles le représentant de l'Élysée qui a reçu les salariés tout à l'heure ne voulait pas répondre. Parce que à eux, il peut peut-être leur dire, encore que c'est déjà un scandale, je ne suis pas mandaté pour vous répondre. Mais au Parlement, devant la commission d'enquête, ils devront répondre. Qu'y a-t-il réellement dans l'accord de Mittal? Y a-t-il des engagements ou non? Lesquels? Que fait le gouvernement pour qu'il soit tenu? Mettons-nous les moyens pour récupérer la maîtrise de la sidérurgie nationale ou pas? Toutes ces questions, nous allons les poser. C'est une question de respect pour les salariés ici et pour les salariés qui ont voulu la victoire de la gauche au printemps dernier. Le gouvernement leur doit des réponses et avec cette commission d'enquête, nous allons les obtenir. Ce qui est vrai pour la sidérurgie, il est vrai pour beaucoup d'autres industries, vous le savez. Pour les Virgin, pour les Petroplus, pour les Fralib, pour les Sanofi, pour tous ceux qui ont parlé ce soir et qui beaucoup d'autres sont dans le pays. Et pour Renault aussi, et je veux en dire un mot. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement de gauche qui essaye de vous dire que la ligne rouge, puisque c'est leur formule, le plan de Renault est acceptable, paraît-il, parce que la ligne rouge n'a pas été franchie. C'est quoi la ligne rouge? Quand on prétend que l'objectif numéro un du gouvernement, c'est de faire reculer le chômage, enfin plus exactement d'inverser la courbe du chômage, qui ne veut pas dire déjà tout à fait la même chose. Mais bon, inverser la courbe du chômage, et qui nous dit que quand un groupe comme Renault annonce 7500 suppressions d'emplois, la ligne rouge n'est pas franchie. Mais où est la cohérence de ce gouvernement s'il prétend que son objectif numéro un est de faire reculer le chômage dans ce pays? Alors il y a manifestement une incompréhension entre nous. Nous ne parlons probablement pas du même code de la route. Parce que nous savons conduire, nous avons tous passé notre permis, et quand on veut aller plus vite, c'est très simple, on se met sur la gauche et on accélère. Ce qui est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour la sécurisation de l'emploi. Et je veux dire un mot à mon tour de l'accord qu'on nous demande à nous, les parlementaires, de ratifier sans le discuter, ce que... Pour les parlementaires du Front de Gauche, c'est très clair, il n'en est pas question, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il n'est pas question pour les parlementaires du Front de Gauche de transcrire dans la loi cet accord comme nous le demande le gouvernement, et je veux dire pourquoi. Parce que cet accord, contrairement à ce qu'on prétend, n'est pas un bon compromis. On peut comprendre qu'on fasse des compromis, ça arrive de faire des compromis syndicaux, des compromis politiques. Mais c'est un très mauvais compromis. Au terme de cet accord, aujourd'hui, un salarié qui refuse un changement de poste, une mutation, une mobilité dans son entreprise, a la possibilité de le faire au terme de la loi. Encore qu'on sait que ce soit difficile, parce que le chantage au chômage pèse très lourd. Mais théoriquement, on a le droit de le faire. Au terme de cet accord, et c'est écrit, vous pouvez aller le lire, cet accord, ce ne sera plus possible. Et un refus de mobilité conduira directement à un licenciement pour motif personnel. Il est possible aujourd'hui pour un salarié de réclamer les heures supplémentaires non payées durant les 5 dernières années. Ce délai est réduit aux 3 dernières années dans l'accord qui vient d'être signé. Il est possible aujourd'hui de refuser une baisse de son salaire ou une augmentation de son temps de travail, même si un accord collectif signé dans l'entreprise le prévoit. Eh bien, au terme de cet accord, un salarié qui refusera d'appliquer un accord compétitivité-emploi, c'est-à-dire ces accords inventés par Sarkozy, qui refusera d'appliquer, de se voir appliquer un accord de ce type, pourra être licencié pour motif économique individuel. Voilà la réalité de cet accord. Et comme l'a dit Clémentine, c'est aussi cet accord qui invente le CDI intermittent, c'est-à-dire la précarité annualisée, où le patron décidera seul du moment où vous viendrez travailler ou pas, bien que vous ayez soi-disant un CDI. Et cet accord aussi désarme les salariés, puisqu'il les empêche de mener les procédures contre les licenciements collectifs qui existent aujourd'hui, puisque dans cet accord, Quand un patron engagera une procédure de licenciement collectif, si l'entreprise compte moins de 100 salariés, il faudra que ce soit réglé en 2 mois et tous les recours juridiques qui excéderont ces 2 mois tomberont. Et quand l'entreprise comptera moins de 500 salariés, il faudra que ce soit réglé en 4 mois. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à PSA, ou dans les entreprises où aujourd'hui les salariés essayent d'utiliser cette procédure qui existe encore, eh bien ce serait tout simplement impossible. Alors on nous dit à nous, les parlementaires de gauche, et là je dis bien de gauche parce que je ne parle pas des parlementaires du Front de gauche, je parle de tous les parlementaires de gauche, on nous dit qu'on est obligé de transcrire dans la loi ces choses-là, c'est-à-dire nous, des parlementaires de gauche qui avons été élus par des Français qui voulaient le changement et la sécurisation de l'emploi, il faudrait transcrire dans la loi les contrats de compétitivité emploi que la gauche combattait quand Sarkozy les proposait. Eh bien, il n'en est pas question. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je m'adresse aussi solennellement, comme l'a fait Jean-Luc, à tous les parlementaires de gauche, à tous les parlementaires socialistes et écologistes. Au nom de quoi une majorité de gauche devrait-elle voter de tels reculs sociaux? Comment se fait-il, c'est une question que je pose à mes collègues socialistes, sénateurs, comment se fait-il que nous avons voté ensemble, sur proposition, sur notre proposition, un projet de loi d'interdiction des licenciements collectifs le 16 février dernier, quand nous étions dans l'opposition? Et quand nous disons socialistes, eh bien aujourd'hui, votons ce projet-là à l'Assemblée nationale pour qu'il soit adopté. On nous dit que ce n'est pas possible. Un projet sur lequel nous étions d'accord. Et aujourd'hui, un accord qui est proposé par le MEDEF, qui a été inspiré par le MEDEF, là, ça devrait être obligatoire. Il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette manière de faire. Et l'argument de la démocratie sociale, l'argument de la démocratie sociale, vous le savez, non seulement ne tient pas, mais il est même indigne pour le respect des syndicats. Puisque dans toutes les élections professionnelles, élections prud'homales comprises, les deux syndicats qui n'ont pas signé l'accord, la CGT et Force ouvrière, font plus de voix dans toutes ces élections que les trois syndicats qui l'ont signé, dont des parlementaires de gauche, n'ont aucune raison d'être obligés de transcrire cet accord. Et nous voulons ouvrir le débat, et nous allons aller à ce débat avec des propositions. La proposition d'interdiction des licenciements boursiers, la proposition de créer un droit de veto pour les comités d'entreprise. Quand un plan de licenciement collectif est annoncé par une entreprise, avec obligation de discuter légalement les propositions alternatives déposées par les syndicats. Nous allons proposer le projet de loi pour le droit de reprise des salariés, le droit de reprise préférentiel des salariés, que le gouvernement lui-même, en juin dernier, avait dit qu'il ferait voter et qui n'est toujours pas sorti des limbes des travaux gouvernementaux. Nous allons proposer que les salariés aient droit à représentation dans toutes les entreprises, dans tous les conseils d'administration, dans tous les conseils de surveillance, avec voix délibérative pour que leur voix compte vraiment. Nous allons proposer la taxation réelle des CDD et la création d'un plafond maximum, comme nous le proposions dans la campagne, de 5% de contrats précaires dans les entreprises, parce que tout le monde l'a dit d'ailleurs dans cette discussion sur la sécurisation, il y a un recours abusif des CDD. Eh bien alors, il faut les taxer et il faut même fixer des seuils légaux. Et comme ça, la question sera réglée. Nous allons proposer la remise en cause des ruptures conventionnelles qui ont été créées par Sarkozy et par la droite et qui ont provoqué l'année dernière 800 000 licenciements. Parce qu'on sait, en fait, que dans 90% des cas, ces ruptures conventionnelles sont imposées aux salariés parce qu'il y a chantage à l'emploi et pression et parfois même harcèlement pour les obliger à accepter ces ruptures conventionnelles. Nous allons proposer non seulement des droits rechargeables, comme on dit, mais des droits transférables tout au long de la vie, d'un emploi à l'autre, pour que les salariés ne recommencent pas à zéro en permanence, alors qu'en vérité, ils ont cotisé pour le chômage, cotisé pour la retraite, cotisé pour leur protection sociale. Et à propos d'indemnisation du chômage, puisque le débat revient, on nous dit, oh là là, il y a danger. Ces gens-là découvrent la lune. Parce que M. Didier Migaud, président de la rapporteur de la Cour des comptes, nous expliquait que quand le chômage explose, la situation de l'UNEDIC se dégrade. Merci, on n'a pas besoin d'experts pour le savoir. Donc effectivement, quand on met une politique de chômage comme on en est une aujourd'hui, effectivement la situation de l'UNEDIC se dégrade. Et le débat n'est pas celui-là. Le débat c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il y a deux solutions. Ou on fait reculer le chômage, ou comme le propose Didier Migaud, on réduit les indemnités des chômeurs. Eh bien nous, nous proposons de combattre le chômage. Et si Didier Migaud n'a aucune idée là-dessus, eh bien nous, nous allons ouvrir le débat sur ce qui est en vérité la véritable question, comment faire reculer le chômage. Et en faisant reculer le chômage, on améliorera les conditions. Alors moi, à mon tour et pour conclure, je veux lancer un appel à tous, à tous les citoyens du pays, à tous les électeurs de gauche, à tous les syndicalistes. Je veux leur lancer un appel. Il faut maintenant se mobiliser en masse, entrer en masse dans le débat politique. Arrêtez de regarder seulement ce qui se passe. Agissez, mobilisez-vous. Il y a des majorités dans le pays pour les propositions que je viens d'évoquer. Il faut que ces majorités deviennent actives, visibles. Il faut qu'elle fasse reculer l'idée selon laquelle ces propositions sont impossibles, alors que c'est le contraire. Elle permettrait au contraire d'ouvrir un chemin de sortie vers la crise. Oui, ouvrons le débat, puisque certains veulent le fermer. Ouvrons le débat pour des solutions de gauche qui peuvent rassembler, je le répète, très au-delà de ceux que nous avons rassemblés au front de gauche, qui peuvent rassembler tous ceux qui ont voulu le changement, tous les syndicalistes et tous les salariés qui aspirent à cela. Et il faut arrêter, effectivement, de jouer à ce petit jeu qui consiste, à chaque fois que nous posons un nouveau problème, à nous dire « Alors, vous êtes quand même un peu trop violent, il faut arrêter de faire ça, vous êtes quand même trop sévère, et puis vous n'allez pas vous allier avec la droite, parce que à force de faire ça, eh bien effectivement, on empêche le débat de se déployer à gauche. Et ce débat est nécessaire pour trouver les solutions à la crise. On nous dit que c'est difficile de trouver des solutions à la crise, mais précisément parce que c'est difficile, peut-être qu'il vaut mieux un grand débat démocratique dans le pays pour trouver des solutions. Donc, nous ne sommes pas en train d'agir pour l'échec, nous sommes au contraire en train d'agir pour donner une chance à la réussite d'une vraie politique de gauche. Et moi, je n'accepte plus cet argument qui consiste à vous dire qu'il faut refermer les débats avant de les ouvrir. Au MEDEF et à droite, ça a été en méthode pendant 5 ans. Sarkozy, dès qu'il mettait un problème sur la table, il disait de toute façon, vous pouvez débattre dans le pays, vous pouvez débattre au Parlement, vous pouvez manifester, vous pouvez vous syndiquer, peu importe, je ferai ce que j'ai décidé. Donc c'était le non-débat permanent, l'autoritarisme en permanence, et le diktat de la droite et de l'équipe. Au Front National, c'est encore différent. Là, c'est le mensonge et la supercherie. Je me permets une petite incise là-dessus. Le Front National fait dire, Marine Le Pen fait dire, qu'elle est contre l'accord dont je viens de parler. Il paraît qu'elle a même mis une pétition en ligne. Et elle dit, je suis contre cet accord parce qu'il défend trop les grandes entreprises. Le problème, c'est que pendant qu'elle dit ça et qu'elle amuse la galerie, à l'Assemblée nationale, les députés du Front National, vous savez qu'ils sont 3 maintenant, dont sa nièce, déposent des amendements. Et ils viennent de déposer des amendements dans le débat qui a lieu actuellement au Parlement sur le contrat de génération que propose le gouvernement. Alors, je vous ai amené un amendement déposé par M. Bompard, M. Collard et Mme Maréchal Le Pen dans ce débat, pour vous donner une idée de la réalité des propositions du Front National, qui sont masquées par tout le tintamarre où on nous fait croire qu'elle serait maintenant devenue quelqu'un qui défend le social. Donc, cet amendement dit la chose suivante. Les entreprises, y compris celles employant plus de 300 salariés, donc elle parle des grandes entreprises, sont déjà soumises à suffisamment de contraintes. sans qu'il soit opportun d'en rajouter. Plutôt que de leur infliger d'éventuelles pénalités, puisque c'est de ça dont parle le débat à ce moment-là, il convient d'étendre le dispositif incitatif déjà prévu, c'est un dispositif d'allègement justement des pénalités financières pour les petites entreprises, pour les entreprises, d'étendre le dispositif déjà prévu pour les entreprises employant entre 50 et 300 salariés, l'application des sanctions prévues serait effectivement lourde et coûteuse. Voilà ce que propose en réalité le Front National en ce moment à l'Assemblée Nationale. Il propose d'exonérer les grandes entreprises qui sont, comme ils disent, embarrassées de suffisamment de contraintes et qu'il faut arrêter de leur infliger d'éventuelles pénalités. Donc quelle arrête de mentir aux Français, elle est dans le camp de la droite, comme nous l'avons dénoncé avec vigueur toute l'année dernière. Mais je veux dire aussi que ces arguments, ils sont employés à droite, à l'extrême droite, et nous n'en voulons pas. Mais ils ne peuvent pas être employés à gauche. On ne peut pas nous dire, quand Jean-Luc critique la situation en Europe et parle du déséquilibre du tandem franco-allemand au bénéfice de Mme Merkel, ce qui se dit dans toute l'Europe, c'est presque une banalité de dire ça dans toute l'Europe quand on voyage un peu. On ne peut pas nous dire, vous n'avez pas le droit d'ouvrir ce débat. C'est insultant pour le gouvernement et pour le président de la République. On ne peut pas nous dire sur l'accord MEDEF-CFDT, vous n'avez pas droit au débat. On ne peut pas nous dire sur le droit de vote des étrangers, on n'a pas droit au débat. On verra ça plus tard. Cette méthode-là n'est plus possible. Nous, nous voulons au contraire ouvrir le débat pour produire le meilleur de la gauche, pour rassembler toutes les énergies à gauche, pour que toutes les idées intelligentes, les idées de progrès social qui circulent nombreuses dans le pays, qui existent dans la tête de milliers de syndicalistes, trouvent force de loi. Et c'est comme ça que la gauche trouvera une nouvelle vigueur. Donc arrêtez d'interdire le débat, ouvrez-le en grand. Et la campagne que nous lançons, elle vise à ouvrir un grand débat populaire avec tous ceux qui veulent une politique de gauche. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord dès le début, mais au moins ouvrons ce débat, donnons-lui de l'air, de l'oxygène. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons multiplier les rencontres publiques, les meetings comme ce soir, les réunions où chacun pourra venir de manière parfois contradictoire, exposer ses propositions. Nous allons multiplier ça pendant des mois. Et comme ça, nous allons construire des solutions que manifestement les cénacles gouvernementaux n'arrivent pas à inventer. Notre campagne, je le redis, c'est une campagne pour la France. C'est une campagne dans laquelle nous ne pensons qu'à une seule chose, à l'intérêt de notre pays, à ceux qui souffrent et qui travaillent et qui seuls peuvent nous sortir de la crise si nous les mobilisons dans la bonne direction. Notre campagne, c'est une campagne de rassemblement parce que ce qui divise aujourd'hui, ce qui démobilise, ce sont les déceptions, c'est les choix qui sont faits à l'inverse de ce qu'attendaient les salariés, les choix qui sont faits par le gouvernement, comme le pacte de compétitivité qui a désarçonné à l'intérieur même du Parti Socialiste, ses militants, ses électeurs, qui n'avaient rien vu venir et qui s'attendaient à tout, sauf à 7 milliards de plus de TVA. Alors, ouvrons le débat, ouvrons-le avec confiance, ouvrons-le avec l'esprit d'ouverture et de rassemblement qui nous caractérise au front de gauche. Et là, nous serons capables de bouger les lignes, capables de changer les rapports de force, capables de faire changer ces politiques, et demain, capables, avec toutes ces forces, de diriger le pays. Merci.